Elle se présentait comme leur sauveuse, une coach en développement personnel et pourtant accusée d'avoir humilié, manipulé, fragilisé et abusé d'au moins 38 personnes pendant 8 ans lors de séminaires et de séances individuelles d'accompagnement en développement personnel. Sonia M est jugée les 23 et 24 mars au tribunal correctionnel de Rennes pour abus de faiblesse sur plusieurs dizaines de personnes en état de sujétion psychologique, mais aussi usurpation de titre, diplôme ou qualité de psychologue. Ce n'est pas la première fois qu'une coach est pointée pour des pratiques déviantes. La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la Miviludes, reçoit régulièrement des signalements. C'est d'ailleurs un point sur lequel la Miviludes insiste dans son dernier rapport d'activité, le coaching déviant. Mais de quoi parle-t-on exactement? Jusqu'où peuvent aller les dérives? Et quelles sont les méthodes de ces coachs qui parviennent à mettre leurs victimes sous emprise? Je suis Pauline Revenat, vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Céline Hussonnois-Alaïa, bonjour, vous êtes journaliste à BFMTV.com. Damien Karbovnik, bonjour, vous êtes historien et sociologue des religions, auteur du livre « Le développement personnel, nouvel opium du peuple ». Merci d'être avec nous. Dans un instant, nous évoquerons ce qui va se jouer durant ce procès. Mais d'abord, Céline, revenons sur ce qui s'est passé durant ces séminaires organisés par Sonia M.
Ce sont des séminaires présentés comme des stages de développement personnel. Ils durent plusieurs jours, le week-end, et sont organisés dans différentes régions de France à intervalles réguliers. Dans le programme de la coach Sonia M, il y a 5 niveaux. Mais après les 5 niveaux, les participants qui les ont réussis peuvent être récompensés en devenant personnes ressources. Personnes ressources, ça veut dire qu'elles accompagnent les nouveaux arrivants des séminaires suivants. En général, les séminaires commencent tôt le matin et finissent tard le soir. Parce que le programme est très chargé, il y a beaucoup d'exercices pour passer de niveau en niveau et beaucoup de moments où il faut se confier, se raconter, en particulier les épisodes difficiles de sa vie. Rapidement, Sonia M se présente comme leur sauveuse, comme la seule personne capable de les aider et elle s'impose dans leur vie. Elle la régente presque avec des rendez-vous individuels entre les séminaires, des rendez-vous qu'elle juge nécessaires. Le résultat, c'est que les participants sont sous pression et cette pression finit par altérer leur jugement. D'autant que les méthodes de la coach sont redoutables. C'est un mélange de psychologie, d'hypnose et de programmation neurolinguistique, mais aussi de spiritualité et d'ésotérisme. Et une autre de ces méthodes, eh bien, c'est d'alterner proximité physique et dénigrement, propos affectueux et humiliation. Quand elle en favorise certains, elle en met à l'écart d'autres. En clair, elle souffle le chaud et le froid.
Mais comment expliquer alors que malgré les humiliations, malgré les dénigrements, les victimes aient continué à la voir?
Eh bien, d'abord, Sonia M ne dénigre pas tous les participants. Certains sont épargnés. Et pour ceux qui ne le sont pas, ils ont été préparés, conditionnés d'une certaine manière. Soraya, une de ses victimes, nous raconte que la coach les a prévenus dès le début. Ça va être difficile. Ils vont devoir plonger dans leur traumatisme. Les séminaires vont remuer des choses qui font mal. Il ne faut donc pas qu'ils s'étonnent de ne pas aller bien avant la fin des séminaires. En plus, Soraya dit qu'elle s'est sentie obligée d'aller jusqu'au bout des séminaires. Il faut préciser que quand Soraya rencontre cette coach, elle ne va pas bien. Elle a une trentaine d'années, elle sort d'un divorce difficile et elle élève seule sa fille. Rapidement, elle se confie. Elle raconte ses fêlures à Sonia M, ses difficultés scolaires dont elle a beaucoup souffert avec sa dyslexie, l'échec de son mariage. Soraya se rend compte aujourd'hui qu'elle s'est accrochée à ses stages de développement personnel, un peu comme on s'accrocherait à une bouée dans un naufrage. Et puis, ce qui explique que les victimes soient restées, c'est tout simplement l'emprise mentale de la coach.
Alors l'emprise, c'est d'ailleurs ce que dénonce la Miviludes dans son dernier rapport, qui évoque largement le coaching déviant. Alors Damien Karbovnik, vous qui êtes spécialiste du sujet, comment ces coachs déviants parviennent à mettre leurs victimes sous emprise? Comment ça commence et par quoi?
Alors, l'emprise en général, c'est un peu en trois étapes. Il y a trois grandes étapes. La première, c'est une phase de séduction. On est là un peu à pâter le client en lui disant on a des solutions, je vais pouvoir t'aider, tu vas pas bien, moi j'ai des solutions, je peux te faire quelque chose, ou je peux t'amener vers une situation plus agréable pour toi. Et petit à petit, se met en place une situation de dépendance, c'est-à-dire que la personne nous procure réellement du bien-être, nous fait du bien, et donc on va la solliciter. Et c'est quelque chose de très rassurant, et petit à petit, cette personne va devenir la référente pour tout. Par exemple, actuellement, j'ai un problème, je ne sais pas, j'ai du mal dans mon couple, je vais appeler la personne, est-ce qu'il y a une solution? Et la personne va systématiquement avoir une solution, ou en tout cas proposer une solution.
Donc elle devient indispensable, en fait.
Elle devient indispensable dans la vie, et petit à petit, une fois qu'il y a cette relation de dépendance, il se met en place, il peut se mettre en place, c'est pas systématique, un rapport de domination où finalement la personne prend possession de la personne au motif de « je vais t'aider, je vais te dire ce qu'il faut que tu fasses » et à partir de là, on est dans une situation effectivement que, caractéristique de ce que la Miviludes dénonce.
Alors pour revenir à Sonia M, Céline, elle fait se confier les participants, elle utilise des méthodes qui relèvent de la psychologie. Quelles sont exactement ses compétences professionnelles et surtout, quelle est sa formation ?
Eh bien, c'est tout le problème. En réalité, la coach n'a aucun diplôme. En tout cas, elle n'est ni médecin ni psychologue. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est poursuivie pour usurpation de titre, diplôme ou qualité de psychologue. À l'époque, Sonia M se présente comme licenciée en psychologie clinique, diplômée de l'école de médecine psychosomatique, psychotechnicienne ou encore spécialiste de la perversion. Inutile de préciser que tous ces titres ne veulent pas dire grand-chose. Et c'est tout le problème avec le métier de coach. Il n'y a ni cadre, ni règlement, ni formation, ni même instance représentative de l'ensemble de la profession. Pour vous donner une idée du problème, on ne sait même pas exactement combien de coachs opèrent en France. Mais ce qu'on sait, c'est que le coaching touche toutes les sphères de la vie, du coaching professionnel au coaching en parentalité, en passant par le développement personnel. Et c'est même encore plus large que ça. C'est ce que pointe la Miviludes quand elle écrit que le coaching est une activité de service très diversifiée qui couvre des domaines tels que le bien-être, le bonheur, l'éducation financière et des techniques de soins comme le massage, la méditation, le jeûne ou les régime alimentaire spécifique. Et la conséquence, eh bien, c'est que tout se mélange et que ça finit par brouiller les frontières entre coaching, développement personnel, bien-être, soins et accompagnement spirituel.
Donc pas de cadre, pas de formation. En fait, n'importe qui peut devenir coach du jour au lendemain. Damien Karbovnik, les coachs n'ont pas forcément de diplôme, pas forcément de formation. Qu'est-ce qui fait en fait leur légitimité ?
C'est tout le problème et c'est une légitimité qui est très difficile à construire dans le fond parce qu'on ne dit pas de diplôme, mais dans le fait, ils en ont tous. Mais des diplômes qui n'ont pas de reconnaissance officielle. Hein, ils vont passer par des écoles de naturothérapie, par exemple, naturopathie, pardon, où ils vont passer par des écoles de coaching qui vont donner des diplômes, mais ces diplômes n'ont aucune reconnaissance officielle, donc ça ne certifie de rien. Et ce qui se passe finalement, c'est que le premier point, enfin, ce qui vraiment va créer leur aura, c'est leur expérience personnelle, c'est leur parcours de vie. Finalement, c'est parce qu'eux ont eu des expériences semblables, qu'ils ont réussi à les surmonter grâce à telle ou telle technique, en général parce qu'ils ont réussi eux, à faire une synthèse de plusieurs techniques, c'est parce qu'ils ont réussi cette épreuve qu'ils sont légitimes, et c'est aussi pour ça qu'on va les croire finalement, parce que si j'ai un problème et que je rencontre quelqu'un qui me dit « bah moi ce problème je l'ai résolu », forcément, je lui dis, je vais lui faire confiance. Et ça va vraiment marcher. Ça va vraiment marcher sur ce mécanisme-là. Fondamentalement, c'est l'idée de la personne qui est là en face de moi, sait de quoi elle parle. Non pas parce qu'elle a des connaissances théoriques, parce qu'on est dans un milieu où les diplômes, en fait, peu importe qu'ils existent ou pas, parce que les gens s'en moquent. Un diplôme, c'est un diplôme. Par contre, ce qu'ils veulent voir, c'est quelqu'un qui a l'expérience, qui a le vécu. Et c'est ça qui vraiment va convaincre quelqu'un que la personne en face, elle est authentique, elle est bienveillante et qu'elle est capable.
Et qu'elle a des choses à vous apporter.
C'est ça. Mmh.
Céline, on va revenir sur Soraya, l'une des victimes de Sonia M. Combien de temps elle est restée entre ses griffes et jusqu'où son emprise est allée ?
Eh bien, c'est allé assez loin puisque Soraya fait partie de ceux et celles qui ont été rabaissés et humiliés. Elle était régulièrement exclue. Sonia M. lui disait qu'elle était la seule à ne rien comprendre. Elle sautait son tour quand il faisait un tour de table ou lui demandait de quitter la pièce. Soraya raconte aussi qu'un jour, alors qu'elle est désignée comme personne ressource, la coach lui fait remarquer que depuis qu'elle est entrée dans la pièce, il y a une énergie négative. Et là, elle dit que c'est à cause de sa famille. Sonia M sait que Soraya a rendu récemment visite à ses parents. Elle lui dit que sa famille est toxique et qu'elle doit couper les ponts. Et Soraya est restée 4 ans sous la coupe de cette coach, des années de cauchemars, comme elle dit aujourd'hui, qui l'ont ruinée sur les plans financiers et moral. À partir du moment où Soraya a rencontré Sonia M, un gourou, comme elle l'a qualifié aujourd'hui, elle a sombré dans une dépression, elle s'est éloignée de sa famille et elle a perdu en tout près de 20 000 euros. Parce que, évidemment, les séminaires et les entretiens individuels étaient payants. Plusieurs centaines d'euros à chaque fois, sans compter les colonies qu'elle organisait à destination des enfants et les autres séminaires très variés, consacrés à la dyslexie, au syndrome d'Asperger, aux troubles de la personnalité borderline, aux victimes de pervers ou encore au grand amour.
Est-ce que Soraya vous a raconté d'autres choses qui se seraient passées durant ces séminaires ?
Soraya raconte que la coach exposait publiquement les blessures les plus intimes, les traumatismes que les participants étaient bien sûr évidemment poussés à livrer, comme cette fois où elle a parlé devant tout le monde du viol de l'une d'entre elles pour la rabaisser. Il n'était pas rare aussi qu'elle pose un diagnostic psychiatrique. Dans le cas de Soraya, Sonia M lui a dit qu'elle avait des caractéristiques de perverse. Pour un autre participant, il avait un trouble de la personnalité borderline. Il faut quand même rappeler que seul un médecin est habilité à poser un diagnostic. Certains certaines familles ont volé en éclats à la suite de ces séminaires. C'est d'ailleurs ce qui est aussi reproché à Sonia M, une immixtion dans la vie privée des participants, conduisant à des fragilisations psychologiques, des tensions au sein des familles, des ruptures y compris avec les enfants, un isolement social, une perte d'autonomie et une dépendance affective vis-à-vis de Sonia M.
Plus globalement, est-ce qu'on a une idée du nombre de victimes que font ces coachs déviants ?
C'est l'inconnu. La Direction Générale de la Police Nationale ne dispose pas de données sur le nombre de plaintes liées à du coaching et beaucoup de victimes ne portent pas plainte. Au niveau des signalements, on a quand même quelques données. La Miviludes en a enregistré 320 en 2024 et 2025. Mais comme elle le rappelle, ce n'est pas tant le volume, mais plutôt la nature et la gravité des préjudices subis qui prévaut dans l'appréciation d'une situation. Soraya, elle, a monté un collectif de victimes de Sonia M. Et la coach, ainsi que sa société, sont jugés lundi 23 et mardi 24 mars à Rennes pour abus de faiblesse sur au moins 38 plaignants. Rappelons qu'elle reste présumée innocente.
Merci Céline pour toutes ces explications. Damien Karbovnik, je rappelle que vous êtes historien et sociologue des religions, auteur de ce livre « Le développement personnel, nouvel opium du peuple ». Point d'interrogation. Aujourd'hui, le coaching est partout. Il se propose d'opérer en fait dans toutes nos sphères, dans toutes les sphères de nos vies, professionnelles, personnelles, familiales. Comment d'abord on explique le succès du coaching ?
Bien, ce succès, on peut un peu le comprendre comme la conséquence de l'individualisme qui domine dans notre société. Et en même temps, il y a une injonction à réussir sa vie qui rencontre cet individualisme. C'est-à-dire qu'on a cette idée qu'il faut avoir il faut vivre, mais il faut bien vivre, il faut mieux vivre. Et le problème, c'est qu'on est dans une société où on est un peu laissé tout seul et on ne sait pas comment faire les bons choix, on ne sait pas concrètement quoi faire. Par exemple, vous êtes en situation professionnelle, vous devez manager une équipe, quoi faire, parce que finalement on a un tel qui est comme ça, un tel qui est comme ça, et comment on peut faire en sorte qu'ils collaborent ensemble. Et donc on est face à un doute, et c'est là où le coaching peut intervenir. Par exemple, dans la vie sentimentale, c'est comment choisir la meilleure partenaire, comment être sûr que cette personne, on va réellement pouvoir fonder une famille avec. Rien ne peut nous indiquer, nous garantir quoi que ce soit. Même sans ça, c'est comment trouver l'amour, c'est la grande question. Donc on a besoin de coachs qui viennent nous dire à peu près quoi faire. Alors ça, c'est une vision un peu dirigiste de la chose, parce que théoriquement, le coach n'est pas là pour faire à notre place, mais il a un rôle d'accompagnement qui vient et qui vise finalement à nous aider à prendre nos décisions. Ça, c'est le coach pur. Après, il y a le coach en développement personnel qui, lui, va avoir un autre discours qui est de révéler notre potentiel, nous permettre de devenir meilleur que ce qu'on est grâce à un potentiel qu'on aurait en nous. Et c'est là où il faut faire un peu une distinction, je pense, entre coaching qui peut être quelque chose de relativement noble, et un coach en développement personnel qui peut ouvrir la voie à des dérives un peu.
Alors justement, on y vient. La victime de Sonia M en parle aujourd'hui comme d'un gourou qui rappelle le film du même nom, récemment sorti au cinéma avec Pierre Ninet. L'acteur incarne un coach qui abuse de ses adeptes. Est-ce que c'est fréquent, les gourous de ce genre ?
Bien, fréquent, on ne sait pas finalement. On a aucune donnée de terrain. Concrètement, là, vous citiez la Miviludes avec un peu plus de 300 plaintes. Par rapport au nombre de coachs qu'il y a en France, c'est ridicule, vraiment, parce qu'on a une quantité de coachs qui est faramineuse. Donc il ne faut pas exagérer le phénomène, mais il ne faut pas non plus pour autant le négliger, parce que déjà 300 plaintes, c'est déjà beaucoup, en fait. Hein, c'est vraiment... voilà. Et ça occulte aussi tous ceux qui ne portent pas plainte, tous ceux qui restent dans des situations un peu malaisantes et du coup, on ne sait pas. Maintenant, dans la majorité des cas, il faut reconnaître aussi une autre chose, c'est que les coachs n'ont pas les résultats qu'ils promettent, bien souvent, donc les gens s'en détournent assez naturellement, parce que c'est difficile de garantir, enfin on est là, on aide à la décision, mais si derrière, ok, je te donne un outil, je vais gérer mon équipe, puis derrière il y a un conflit encore plus gros, alors bien sûr il y a des coachs qui vont continuer en disant oui, mais il faut aller à l'autre technique, et puis ainsi de suite, et on continue comme ça éternellement, mais il y a un moment donné aussi, quelqu'un va dire non, mais là j'arrête, j'ai essayé une première fois, c'est nul, deuxième fois ça marche pas, et c'est ça aussi la réalité du monde du coaching, c'est que on est face à des gens qui cherchent des solutions, qui attendent des réponses, et lorsqu'ils ne les ont pas, s'en détournent assez naturellement. Mais c'est aussi là où certains deviennent beaucoup plus insistants.
Alors à la question recourir à un coach peut-il être dangereux, la Miviludes répond oui. Et pour conclure, est-ce que vous pourriez nous donner quelques conseils à ceux justement qui sont tentés de faire appel à ces coachs. Quels signes doivent alerter si on a recours à ces personnes-là? À quoi faut-il faire attention précisément?
Alors, le premier point, il faut bien comprendre que lorsqu'on va on s'engage dans ce type de démarche, c'est qu'on est dans une situation de mal-être. C'est-à-dire qu'on est fragile. Et ce n'est pas une question de « moi je suis au-dessus de ça » et « moi ça ne me concerne pas ». On est tous concernés par ça parce que tous, à des instants de nos vies, on a des situations de fragilité. Donc être conscient qu'à partir du moment où on s'engage là-dedans, c'est qu'on est fragile, donc on n'est pas forcément dans un état de vigilance suffisant. Ça, c'est le premier point. Après, à partir du moment où on se retrouve face à quelqu'un qui affirme avoir la réponse à tout, quel que soit, je veux dire, par exemple, vous y allez pour un problème professionnel et puis ensuite vous commencez à avoir un problème de couple, je dis bah oui, bah moi, ça marche aussi pour ça. Et à partir du moment où on a un peu un système totalisant comme ça, il faut un peu se s'inquiéter. À partir de, ensuite, il y a aussi la question de l'argent, évidemment. Tout est payant. Alors oui, ça peut être normal, mais quand on voit que les dépenses commencent à être importantes et qu'on est tout le temps encouragé à donner plus, à donner plus, à donner plus, à donner plus. Là, c'est un énorme red flag, se dire qu'au bout d'un moment, faut arrêter. Et puis, il y a aussi l'intrusion dans la vie privée. À partir du moment où la personne va donner presque des ordres ou des conseils qui sont très insistants, notamment en matière de santé ou de relations sociales. À partir du moment où on voit vous dire d'arrêter de vous soigner par la médecine officielle parce qu'elle est potentiellement dangereuse, arrêter de voir vos parents parce qu'ils sont toxiques. Voilà. Tout ça, ce sont des signes. Alors, c'est pas forcément rédhibitoire à chaque fois, parce que dans certains cas, les conseils peuvent être bons. Comme on est dans une situation de fragilité, on a parfois du mal à voir les nuances, on a du mal à faire la part des choses. Et une fois qu'on est un peu embrigadé dedans, finalement, c'est très difficile d'en sortir, c'est très difficile de se rendre compte. Et parfois, la meilleure démarche, quand on s'engage là-dedans, c'est d'en parler à des amis proches en qui on a confiance, qui restent vigilants, qui restent en dehors du système, et qui parfois, eux, sont un peu plus lucides et peuvent dire « attention, là, il y a quelque chose ».
Merci à tous les deux, merci pour vos éclairages et votre participation. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur bfmtv.com et les plateformes de streaming. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles enquêtes dans Affaires suivantes, le podcast inédit.